ça a commencé. L'émission a commencé.
Debout.
Énorme. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances?
Le football, il a changé.
Good morning Tours, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Tours. Nous sommes le vendredi 27 janvier 2023, il est 7h16 et c'est parti pour la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Et au programme cette semaine, Zachary reviendra sur la polémique autour des cultissimes M&M's, Maëlle qui commence à développer une sérieuse passion pour les pingouins nous parlera d'une colonie qui vient d'être découverte grâce à des images satellites. Ensuite, cette semaine, deux de mes camarades de M1 viendront s'essayer à la radio, Thomas pour une chronique musicale et Louise pour évoquer le nouvel an lunaire. Lundi, le baromètre version 2023 de la confiance envers les médias est sorti. Marion vous dira ce qu'il faut en retenir. D'ici là, il y aura aussi le Flash Info et le Journal des Sports. Mais avant, on commence comme chaque semaine en musique avec ce matin, Muse.
Let you be.
Il est 7h20 sur Radio Campus Tour, vous venez d'écouter Undisclosed Desires de Muse. Zachary, ce matin, tu nous parles des M&M's.
En effet, Kelvin, bon, dès le matin, c'est pas très sain, mais c'est vrai que c'est bon les M&M's. Hein. Puis les pubs, elles sont rigolotes, avec rouge et jaune et leurs copains. Là. Le problème, c'est que c'est l'objet de la news un peu absurde de la semaine. L'entreprise américaine Mars a annoncé lundi retirer de ses campagnes publicitaires ses petites mascottes anthropomorphes. La raison, la grogne de la droite américaine.
Parce qu'ils fonctionnent trop bien, ça pousse trop à la consommation de bonbons.
Si seulement c'était ça. En fait, pour cette droite américaine, M&M's véhicule à travers ses petits bonhommes chocolatés l'idéologie woke, rien que ça.
If it ain't woke, don't fix it. M&M's injected a social justice initiative into a bag of candy and nobody had asked for this initiative.
Alors c'est pas rouge et jaune hein, qui sont en cause, c'est plutôt leurs collègues féminines qui ont eu droit à un petit relifting depuis quelques mois. Et la chaîne d'info Fox News, connue pour avoir longtemps soutenu Trump et pour ses positions réactionnaires, a la marque dans le viseur pour ce qui est vu comme de la cancel culture. Tucker Carlson, l'un des éditorialistes les plus influents de la chaîne, a ainsi exprimé son mécontentement quand l'une des personnages a vu ses bottes à talons remplacées par des petites baskets. Scandale ! Elle est moins sexy ? C'est peut-être une lesbienne, lâche-t-il il y a un an dans son émission. Pareil, la M&M's brune a vu ses talons raccourcir. Mais depuis janvier, une nouvelle icône féminine violette, censée représenter l'inclusivité, a été présentée. Un paquet avec seulement les couleurs des M&M's femmes a même vu le jour en Amérique, en édition limitée, pour renverser le statu quo, je cite. Un nouveau personnage inclusif ? Alors là, c'est trop. Pour Fox News, vu qu'elle a davantage une forme ovale que ronde, c'est un personnage obèse. Les woke veulent gommer les genres.
Ça rappelle ce qui s'était passé avec le monsieur patate unisex il y a quelques mois.
Tout à fait, où le genre du personnage avait été moins mis en avant, ce qui avait provoqué l'ire des éditorialistes anti-woke.
Sauf que là, cette fois, ça a eu un effet sur l'entreprise.
Alors oui, a priori, les personnages vont quitter nos petits écrans pour un moment, mais c'est pour un moment. Parce que M&M s'annonçait dans le même temps qu'il serait remplacé par l'humoriste Maya Rudolph, venu du Saturday Night Live. Certains commencent à douter de la décision et évoquent la possibilité d'un happening au Super Bowl mi-février, la fameuse finale de football américain où tous les yeux sont braqués sur les artistes qui se produisent durant la mi-temps et où les marques rivalisent pour se faire remarquer.
Donc en fait, M&M's joue sur un scandale, qu'est-ce que ça leur apporte ?
Alors oui, tout porte à croire que les communicants chez M&M's font exprès de titiller l'alt-right après que celle-ci ait protesté une première fois. Qu'est-ce que ça peut leur apporter ? Eh bien, ce qui se passe en ce moment, à savoir de la pub gratuite pour la marque. On a donc l'impression ces dernières années que certaines entreprises implantées dans le divertissement ou la culture font à la fois un travail plus ou moins lent de modernisation de leur image vers plus de diversité, mais en jouent également en faisant littéralement réagir les réactionnaires aux aguets pour trouver les moindres symptômes de la guerre culturelle qui fera rage entre les progressistes dégénérés envahissants et les conservateurs droits dans leurs bottes et leurs valeurs.
Mais du coup, là, on parle quand même de bonbons, non ?
Ouais, finalement, je crois que c'est ça, hein, le plus inquiétant, que des mecs de 40 balais soient obsédés à ce point sur un bonbon imaginaire avec des longs cils et des talons. Les mecs ont dû développer un fantasme pour la cacahuète, un truc impressionnant, quoi. Enfin bref, moi, ça m'a juste donné envie de manger des M&M's, hein, perso.
Eh bien, merci, Zachary. Kero, Kero, Bonito, Flamingo, c'est ce qui arrive tout de suite.
How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. あいつらはピンク動物園で思ったピンク食べ物でそうなんだ実は私はタラコが大好きプラスエビカニ食べようピンク色になるのだからみんな違う色人間って勘違いしてるよね Black, white, green or blue Show off your natural hue Flamingo Oh 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 If you're multicolored, that's cool too. You don't need to change. It's boring being the same. Flamingo, oh 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 oh. You're pretty either way. 鶴の尻尾下に向かって曲げたらフラミンゴ意味不明だけど面白いでしょ日色に染まった世界今日も地球のどこかでエビをむしゃむしゃ食べてフラミンゴはピンク色に染まっていくぜ 1, 2, 3 metro hue flamingo. Oh, 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 oh. If you're multicolored, that's cool too. You don't need to change. It's boring being the same flamingo. Oh, 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 oh. You're pretty either way. Flamingo. How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. Green or blue? Show off your natural hue, flamingo. Oh, 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 oh. If you're multicolored, that's cool too. You don't need to change. It's boring being the same, flamingo. Oh, 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 oh.
Il est 7h27 sur Radio Campus Tours, nous sommes le vendredi 27 janvier 2023 et c'est l'heure du Flash Info. On commence par l'actualité qui domine ce début d'année en France, le projet de réforme des retraites. La grogne continue, hier les salariés des raffineries, des centrales EDF et les dockers étaient en grève et quelques rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes françaises comme Rouen, Marseille, Paris, Dijon, en attendant mardi prochain, nouvelle journée de grève intersyndicale. Mobilisation sur le terrain, mobilisation également dans l'hémicycle en vue de l'examen du texte en commission à l'Assemblée nationale. Plus de 7000 amendements au projet de réforme des retraites ont déjà été déposés par les députés. On continue avec le Burkina Faso qui s'ajoute à la liste des quelques pays du Sahel qui souhaitent que l'armée française quitte leur territoire. Après le retrait de l'opération Barkhane l'année dernière au Mali, la junte militaire actuellement au pouvoir ne souhaite plus l'aide des 400 militaires de l'opération Sabre dans la lutte contre les groupes djihadistes et réclame le départ de l'ambassadeur français. Ce dernier a été rappelé hier après-midi par Paris. La relation diplomatique se dégrade brusquement alors que les Burkinabés ont vécu deux coups d'État en 2022, en partie causés par des attentats perpétrés par les branches locales d'Al-Qaïda et de Daesh. Désormais, les dirigeants semblent se rapprocher de la Russie, l'efficacité des troupes françaises ayant été en deçà des attentes. Au sujet de la guerre en Ukraine, la mobilisation des Occidentaux continue. Si la France n'a pas encore fait de promesse, le Canada va livrer 4 chars Léopard. Cette annonce fait suite à celle des Allemands et des Américains qui ont chacun décidé la livraison de chars lourds en direction de Kiev. Au total, 130 blindés vont arriver sur le sol ukrainien dans les prochaines semaines. L'Ukraine s'en réjouit et précise que c'est une étape importante pour la victoire finale. Moscou dénonce l'engagement direct de l'Occident dans le conflit. Les Russes préviennent qu'ils brûleront tous les chars à Kiev. Le Kremlin qui poursuit ses frappes. Hier, au moins 11 personnes ont été tuées, 11 autres blessées selon les autorités ukrainiennes. Des installations énergétiques étaient visées. Dans le même temps, nous avons appris ce jeudi que près de 66 000 Ukrainiens sont arrivés en France entre le début de la guerre et fin 2022. Un autre chiffre, 10 milliards et même plus de 10 milliards d'euros, c'est la somme faramineuse que devraient coûter les catastrophes naturelles en France en 2022. Une annonce faite hier par la présidente de France Assureurs et c'est un record depuis 24 ans. C'est évidemment en lien avec le réchauffement climatique. 2022, comme on l'a évoqué dans cette matinale, a été l'année de tous les records au niveau du climat. Et les assureurs ne sont pas vraiment optimistes pour les années à venir. Donald Trump va pouvoir revenir sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Il avait été banni après l'invasion du Capitole début 2021. Pour l'heure, l'ancien président des États-Unis n'a pas posté de nouveaux messages. Il préfère pour le moment son réseau Truth Social. Mais cette annonce devrait le réjouir, lui qui est candidat à l'élection présidentielle américaine l'année prochaine. Hier soir, à Tours, comme dans de nombreuses villes françaises, c'était la nuit de la solidarité. Partout en France, des milliers de bénévoles sont allés à la rencontre des personnes sans-abri. L'objectif est de leur faire répondre à un questionnaire pour mieux comprendre qui ils sont et quels sont leurs besoins. À Tours, plus de 230 bénévoles ont parcouru les rues à la recherche des femmes, des hommes et des enfants sans-abri. L'année dernière, pour la première édition Tourangelle, 39 personnes avaient été identifiées. Et pour finir ce journal, un rapide point sur le temps. Ce vendredi, selon Météo France, les nuages nuages seront nombreux au-dessus de l'Indre-et-Loire. Il fait 5 degrés actuellement à Tours. La température grimpera jusqu'à 6 cet après-midi. Et ce week-end, dans la ville comme sur l'ensemble du département, c'est nuageux, le mot qui résume ce qui nous attend. Voilà pour le flash. Et comme d'habitude, je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au site rattrapage au pluriel -actu.epjt.fr. Chaque vendredi, vous y retrouverez toute l'actu de la semaine résumée par mes camarades de l'EPJT. On poursuit avec What a Life de Scarlett Pleasure.
What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I'm so thrilled right now, cause I'm popping pills right now. Don't wanna worry about a thing,
don't wanna worry.
But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now, cause I'm popping pills right now. Don't wanna worry about a thing,
don't wanna worry.
But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. It's okay, it's okay. Yeah, we living this way. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. Don't really have a clue, nothing I need to do. I got some money, but ain't got no plans.
Ain't got no plans.
It's making me paranoid to float like an asteroid. How long before I go insane? Don't really have a clue, nothing I need to do. I got some money but ain't got no plan.
Ain't got no plan.
It's making me paranoid to float like an asteroid. How long before I go insane? What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. It's okay.
C'était What a Life, musique de l'étonnant et très bon film Drunk. On continue cette émission avec une nouvelle chronique. Aujourd'hui, Maëlle, tu nous emmènes de nouveau en Antarctique. Il y a quelques semaines déjà, tu nous avais parlé d'une colonie de manchots à Delhi qui était menacée par la formation de la banquise côtière. Aujourd'hui, il est encore question de cet oiseau qui ne vole pas, mais cette fois, tu nous parles d'une colonie de manchots empereurs qui vient d'être découverte grâce à des images satellites.
Et oui, quoi de mieux que les satellites pour explorer un continent hostile à la vie humaine ? C'est ce que met en place le projet Vie sauvage depuis l'espace, lancé par le programme britannique pour l'Antarctique. Il utilise des images prises par le satellite Copernicus Sentinel 2, un satellite de l'Agence spatiale européenne, dont le niveau de précision est très élevé. Avec ces photos, les scientifiques peuvent fournir aux décideurs politiques des informations clés pour la préservation des animaux sauvages. Les scientifiques ont déjà pu repérer depuis l'espace des baleines, des albatros, des morses, des phoques ou bien des manchots. C'est ce qui vient d'arriver vendredi dernier. L'équipe de chercheurs britanniques a annoncé avoir découvert une nouvelle colonie de manchots empereurs dont on ignorait jusque-là l'existence. Cette colonie a été repérée du côté de Verlager Point, dans l'Antarctique occidental, à l'ouest du continent. Ce sont des taches sombres sur la banquise blanche, bien visibles depuis l'espace donc, qui ont mis les scientifiques sur la piste des manchots. Ces taches sombres, il s'agit en fait d'excréments d'oiseaux. Et en poursuivant leurs recherches, les scientifiques ont pu établir à environ 500 la population de cette colonie. Ce n'est pas la première fois que des manchots sont repérés depuis l'espace. Désormais, 66 colonies sont répertoriées tout autour de l'Antarctique.
C'est une découverte excitante. Les images satellites du littoral de l'Antarctique nous ont permis de trouver de nombreuses colonies.
Peter Fretwell, le scientifique qui a mené les recherches.
C'est une bonne nouvelle, mais comme de nombreuses colonies que nous avons découvertes récemment, celle-ci est petite. En plus, elle se trouve dans une région très touchée par la fonte des glaces.
Les manchots empereurs sont connus pour être vulnérables à la fonte des glaces, d'autant plus que cette espèce ne vit et ne se reproduit uniquement qu'en Antarctique. Elle a été classée comme espèce menacée par l'autorité américaine en charge de la protection de la faune, cela en octobre dernier. Le Fonds britannique pour l'Antarctique, de son côté, explique que dans les conditions actuelles, 80% des colonies de cette région pourraient avoir disparu d'ici la fin du siècle. En cause, il y a la fonte des glaces et le réchauffement de la région qui mettent en péril les sites de reproduction des manchots. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'acidification des océans qui menace certaines variétés de crustacés dont les manchots empereurs se nourrissent.
Notre actu peut être reliée à la survie des manchots en Antarctique, c'est bien ça ?
Et oui, puisqu'on a appris lundi qu'un iceberg de, tenez-vous bien, 15 fois la taille de Paris venait de se détacher de la banquise. Attention toutefois, cela n'est pas dû au réchauffement climatique, mais plutôt au comportement naturel de la glace à cet endroit, puisque la glace bouge, subit la pression des marées et des courants. Des inquiétudes avaient été exprimées quant au fait qu'une colonie de manchots empereurs se trouvait tout proche de la faille d'où s'est détaché cet iceberg. On craignait donc que cette colonie se retrouve à la dérive. Mais finalement, tout va bien. Les images satellites, justement, ont permis de distinguer les excréments de la colonie de manchots qui est bien restée sur le continent. Si la création de cet iceberg n'est pas liée au réchauffement climatique, le continent enregistre toutefois des records de température, comme ailleurs sur la planète. L'étendue de la glace y a atteint en février 2022 le minimum jamais enregistré en 44 ans d'observation satellite, a expliqué le programme européen Copernicus. Et on peut se demander quel avenir pour le bloc de glace qui vient de se détacher lundi. Eh bien, il y a un précédent. En 2021, un iceberg de la même taille a complètement fondu à 4000 km au nord du lieu d'où il s'était détaché. Il avait relâché plus de 150 milliards de tonnes d'eau douce mêlées à des nutriments. Et cela inquiétait alors les scientifiques sur les conséquences de ce phénomène sur un écosystème qui est déjà fragile.
On va poursuivre en musique avec Move Your Feet de Junior Senior. C'était Move Your Feet de Junior Senior. On enchaîne tout de suite avec Thomas. Salut, bienvenue. En amoureux de musique que tu es, tu ne peux évidemment pas faire une première chronique sur un autre sujet.
Salut Kelvin, bonjour à tous. Et oui, hier, cela faisait déjà 4 ans jour pour jour que l'un des plus grands compositeurs français du siècle dernier nous quittait. Je veux bien entendu parler de Michel Legrand. À cette occasion, et pour lui rendre hommage, je voudrais vous parler de l'une de ses plus belles partitions, Les Parapluies de Cherbourg. Réalisé par Jacques Demy et mis en musique par Michel Legrand, Les Parapluies de Cherbourg est une comédie musicale sortie en 1964. Pensé comme une œuvre révolutionnaire, le film peut, à bien des égards, être considéré et surtout analysé comme un véritable opéra. Je vous explique. Premièrement, le film est construit comme un opéra. À l'instar des films de Tarantino, Les Parapluies de Cherbourg est un film chapitré. 91 minutes divisées en 3 parties, nommées respectivement le départ, l'absence et le retour. Véritable clin d'œil, ces parties sont en réalité des actes, la manière traditionnelle de compartimenter les opéras. De plus, le film varie entre passages parlés chantés et grandes envolées lyriques, pas sans rappeler les récitatifs et les airs que l'on peut entendre à la Scala ou à Garnier. Ensuite, il y a le sujet du film. Le scénario est vu et revu. Oui, mais bon, on en redemande. En effet, Les Parapluies de Cherbourg utilisent l'un des plus grands poncifs scénaristiques de l'histoire, l'amour impossible. En bref, c'est l'histoire de Geneviève et Guy, deux jeunes amoureux que tout oppose. Pour la suite, je vous laisse regarder nos spoils. De Roméo et Juliette à Samson et Dalida, l'amour impossible, c'est LE sujet d'opéra par excellence. Enfin, structurée et scénarisée comme un opéra, la musique de film reprend également les techniques de composition issues de celui-ci. C'est le cas par exemple du leitmotiv.
Et justement, qu'est-ce que c'est le leitmotiv, Thomas ?
Kelvin, je t'explique. Cher à Wagner, le leitmotiv est une mélodie répétée et réarrangée qui figure un personnage, un sentiment ou une idée. Par exemple, dans Star Wars, la musique « Les marches de l'Empereur » est le leitmotiv de Dark Vador. Quand le personnage est en pleine puissance, la mélodie est jouée forte par tout l'orchestre. Quand Dark Vador traverse une mauvaise passe, la musique va être jouée par un instrument à la sonorité calme et un tempo plus lent. C'est ça, un leitmotiv. J'aurais encore pu vous parler des heures de ce film, de la citation de Carmen, du vérisme par exemple, mouvement littéraire italien proche du naturalisme que le film emprunte. Mais je dois m'arrêter là. En définitive et pour conclure, Les Parapluies de Cherbourg est bien plus qu'une comédie musicale colorée emblématique de la nouvelle vague. Jacques Demy avait d'ailleurs confié vouloir faire de ce film un véritable, je cite, « opéra populaire ». Mission réussite, à sa sortie, le film fut un succès et décrocha même la Palme d'Or. Alors, Les Parapluies de Cherbourg, opéra filmé ou film opératique ? Pour y répondre, je vous invite à voir ou revoir cette œuvre exceptionnelle.
Et ben justement, on a juste envie de le voir ou même de le revoir. Et tu veux aussi nous parler, Thomas, et même nous recommander une artiste qui joue ce soir à Saint-Avertin.
Et oui, ce soir, ça se passe dans le cadre de l'Intime Festival. Entouré des artistes Hussard et Thelma, on aura la chance d'entendre Zao de Sagazan, la chanteuse de 23 ans, originaire de Saint-Nazaire, exposera son univers aux sonorités électroniques et sa plume touchante, le tout d'une voix envoûtante au grave profond. Zao de Sagazan, c'est ce soir à la Nouvelle Atrium de Saint-Avertin, début 20h30.
Merci Thomas, et le rendez-vous est noté. Avant de retrouver Zeynep pour le journal des sports, on poursuit en musique justement avec Zao de Sagazan, le titre « Les Dormantes ».
L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires à deux, même des plus beaux amours heureux. On a beau croire qu'on a gros caractère, ah, ces gens-là ont beaucoup de savoir-faire. Si tu veux pas rester bloqué dans leur filet, mieux vaut filer dès que t'y es. Mais comment savoir que t'y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font rares? Tout se passe pleinement dévalé. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Sont du genre très beau parleur, ah, la guicheur, l'allumeur, le séducteur. T'auras beau être en train de chialer depuis des heures, monsieur te prêtera des erreurs, lui qui n'en fait jamais d'ailleurs. Tout se passe tout doucement dans ses murmures, le serpent, et après la colère, il vous c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Oui, ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou et j'en deviens sûr. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Passer silencieusement pour arriver finalement à, au pire des tableaux, au croupissant, la laissant éternellement belle au bois dormant, la laissant éternellement belle au bois dormant.
Zao de Sagazan sur Radio Campus Tour. Il est 7h49 et c'est le journal des sports présenté par Zeyneb.
Bonjour à tous, salut à toi Kelvin, et on commence par le tennis avec l'Open d'Australie côté femmes. La joueuse biélorusse Arina Sabalenka voit les portes de la finale en Grand Chelem s'ouvrir devant elle suite à sa victoire contre la polonaise Magdalinette. Les deux adversaires ont livré un combat allant jusqu'au jeu décisif mené de bout en bout par Sabalenka 7-1. Lors de la finale, elle affrontera la kazakhstanaise Elena Rybakina qui a déjà remporté un tournoi en Grand Chelem à Wimbledon en 2022. Côté homme, Novak Djokovic s'est qualifié depuis mercredi pour la 10e fois de sa carrière pour les demi-finales à Melbourne. Il était face à Andrei Rublev lors d'un match 6-1, 6-2, 6-4. On passe au handball maintenant avec une victoire côté français face à l'Allemagne ce mercredi lors du Mondial. Les Bleus se sont qualifiés difficilement, c'est vrai, pour les demi-finales 35-28, mais ils affronteront ce soir les Suédois à 21h, pendant que le Danemark s'opposera à l'Espagne à 18h. L'équipe de l'EPJT est derrière les Bleus. Cyclisme maintenant. Le coureur néerlandais Marjin van den Berg s'est imposé hier sur la deuxième épreuve du Challenge de Majorque, le Trofeo Alcudia, au bout d'une course de 158,6 km. Quant au français Axel Zingel, il termine à la quatrième place. Et on termine ce journal des sports avec la Coupe du Monde de hockey sur gazon qui bat son plein en Inde. Dans la journée du mercredi, l'Allemagne a battu l'Angleterre qui menait pourtant le jeu pendant un long moment. Ils affrontent aujourd'hui l'Australie pour une place en finale.
Eh bien merci beaucoup Zeyneb, et on est tous derrière les Bleus, les handballeurs qui ont déjà gagné 6 fois les mondiaux. On continue en musique avec La Rochelle, Work That Body.
Come on and work that body. Come on and
Comme promis, c'est au tour de Louise pour sa première dans Good Morning Tour. Et j'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ?
Eh bien, dimanche, le 22 janvier, je me suis baladée dans les rues de Tours et j'ai entendu un son un peu inhabituel. En m'approchant, j'ai vu un défilé d'une vingtaine de personnes en tenue traditionnelle chinoise. La procession, elle suivait les ondulations d'un dragon en papier dirigé par 6 hommes qui le faisaient danser. Je me suis demandé ce qu'ils pouvaient bien faire et puis je me suis souvenu que c'était le nouvel an lunaire, ou comme les gens l'appellent plus communément, le nouvel an chinois. Mais alors pourquoi je l'appelle le nouvel an lunaire ? En réalité, c'est bien et bien nouvel an lunaire qu'il faut dire. La Chine n'était pas la seule à fêter la nouvelle année dimanche, la Corée et le Vietnam aussi. On parle donc plutôt de nouvel an lunaire parce qu'il est déterminé en fonction du calendrier lunaire. Je vous propose donc un petit tour des pays d'Asie de l'Est qui ont fêté la nouvelle année, mais au début de la semaine. Je commence par la Chine parce que c'est le nouvel an que l'on connaît le plus en France. En chinois, on dit Nongli Xianyan. Traditionnellement, les célébrations débutent avec un grand ménage et la confection de plats traditionnels pour les 15 jours de fête qui vont suivre. Enfin ça c'est plutôt dans le passé, parce qu'à notre époque, c'est plutôt une semaine de congé, mais à l'origine, la fête durait bien 15 jours. Pour le passage de la nouvelle année, les Chinois visitent leur famille, sauf des étrennes, les fameuses enveloppes rouges. Et ils font éclater des pétards, pour éloigner le mauvais sort et faire peur aux esprits. Cette année, c'est la première fois que la Chine fêtait le nouvel an lunaire, sans restrictions liées au Covid. Tout comme la Chine, la Corée était libre de mesures sanitaires cette année pour fêter Solal, le nouvel an coréen. Cette fête est très importante en Corée, au point qu'elle a été fêtée, malgré l'interdiction et le risque de répression sous l'occupation japonaise du pays, de 1910 à 1945. Cette année, Solal débutait le 22 et s'étendait jusqu'au 23 janvier. Comme les Chinois, les Coréens rentrent dans leur famille pour célébrer la nouvelle année ensemble. Et comme tous les ans, ces déplacements ont créé des embouteillages. Les plats cuisinés sont supposés apporter chance et allonger l'espérance de vie. Enfin, au Vietnam, Tet, la fête du premier jour de l'année a été fêtée ce week-end. C'est le jour le plus important de l'année, une explosion de couleurs, de pétards, de nourriture, de danse et de décoration symbolise cette célébration, comme pour les deux autres pays. Voilà, maintenant vous en savez plus sur cette célébration, bonne année du lapin, et je compte sur vous pour ne plus dire nouvel an chinois au lieu de nouvel an lunaire.
Merci Louise, le lapin qui je rappelle est synonyme de calme et d'harmonie. Il est presque 8h et on écoute tout de suite Chinese Football.
Call 小龙虾、烧火锅和拉面，鲜鱼味回旋。入住提沙锅粥，大海鲜浮起飞边，一口升天。别浪费明天，哪怕是一顿饭的时间。
Chinese Football, le titre Je vais m'essayer, Chonghua Mechizia. Je savais que j'aurais dû prendre LV3 chinois. Tout autre chose maintenant, en tant qu'étudiante et étudiant en journalisme, on se devait d'en parler. Marion nous présente aujourd'hui le baromètre 2023 de la confiance dans les médias. Bonjour Marion.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme l'a dit Kelvin, je vais vous parler du baromètre de la confiance dans les médias. Si ça ne vous dit rien, c'est que vous n'êtes pas allé aux Assises du journalisme. Non, mais plus sérieusement, c'est une étude commandée chaque année depuis 1987 par le journal La Croix pour évaluer, mesurer ce que les gens pensent des médias, en gros. Ces dernières années, la conclusion générale, c'était que les gens s'informent de moins en moins et n'ont plus confiance dans les médias. Dans le rapport qui portait sur l'année 2021, même la radio était concernée par ce phénomène. Mais lundi, quand le baromètre 2023 est sorti, c'était la surprise générale dans les médias. Les Françaises et les Français ont eu un regain d'intérêt pour l'actualité en 2022. En effet, 76% d'entre eux disent suivre l'actualité avec un grand intérêt. L'année dernière, il n'était que 62%. Et 4 sondés sur 10 disent davantage s'intéresser à l'actualité qu'il y a quelques années.
Mais comment on explique ce regain d'intérêt ?
Eh bien, pour l'étude, c'est lié aux actualités fortes de 2022, comme la mort de la reine d'Angleterre, la Coupe du monde de football au Qatar, ou encore la guerre en Ukraine et l'inflation. Mais ça s'est aussi retourné contre les médias.
Ah, c'est là qu'il y a un mais, non, Marion ?
C'est le cas de le dire. De nombreux sondés ont ressenti une fatigue informationnelle en 2022, à cause notamment de ces trois actus-là, la mort d'Elisabeth II, la Coupe au Qatar et la pénurie de carburant. Pour ces trois sujets, presque la moitié des sondés ont trouvé que les médias en parlaient trop, qu'ils en avaient trop fait. Par ailleurs, ce regard d'intérêt ne concerne pas beaucoup les jeunes générations. Seuls 66% des moins de 35 ans ont suivi l'actu avec un grand intérêt en 2022. Et d'ailleurs, un tiers d'entre eux s'intéressent moins à l'actualité qu'avant. Bon, après, le baromètre démontre aussi certains clichés sur les jeunes.
Eh bien, lesquels ?
Par exemple, le fait qu'ils s'informeraient uniquement sur les réseaux sociaux. En fait, ils arrivent seulement en deuxième place pour les 18-24 ans. Pour s'informer au quotidien, ils préfèrent, suspense, les journaux télévisés. Et c'est le cas pour toutes les générations. Les JT arrivent en tête pour être au courant de l'actualité tous les jours, toutes générations confondues. Après, même si les gens regardent plus la télé que d'autres médias, ce n'est pas ce média-là en lequel ils ont le plus confiance. Encore une fois, c'est la radio qui arrive en tête avec 54% des sondés qui pensent que les choses sont passées comme la radio le dit.
Après Marion, je ne veux pas te décevoir, mais 54% des personnes qui ont confiance en la radio, ça reste peu, non ?
Certes, mais les chiffres sont pires pour les autres médias. Et plus de la moitié des sondés pensent que les journalistes sont influençables, notamment face aux pressions politiques et économiques. Donc bon, moi, 54%, je suis contente. C'est un résultat encourageant pour nous, les futurs journalistes radio. Bref, continuez d'écouter Radio Campus et merci pour votre confiance.
Eh bien, continuez d'écouter Radio Campus, c'est une belle fin pour finir cette matinale. Merci de nous avoir suivis, merci à toutes les personnes qui ont participé comme chaque semaine. Merci à Zachary, à la technique, Thomas, Marion, Zeyneb, Maël, Louise pour la qualité de leur chronique. Il est 8h06 sur Radio Campus Tours. Toute l'équipe de l'EPJT vous retrouve de bonne humeur la semaine prochaine. D'ici là, passez un bon vendredi et un bon week-end.
Chlamydia, la furette empaillée qui sert de trophée, se rapproche de plus en plus de Tours. Donnez-moi un E, E. Donnez-moi un P,
P.
Donnez-moi un J,
J.
Donnez-moi un T,
T.
E, P, J, T.
Pour la pratique, est-ce que vous pouvez nous dire comment se déroulent les stages et l'alternance durant le cursus à l'EPJT ?
Alors, il se déroule bien.
Et ici, à l'EPJT, on est plus chaud que le climat.
Enfin, Jeanne nous parlera...
On n'a pas très bien compris, on verra avec elle.